Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans Le Solitaire, seul et unique roman d'Eugène Ionesco, paru en 1973, le narrateur considère qu'à 35 ans, l'heure est venue pour lui de se retirer de la vie. Il s'étonne de l'agitation de ses congénères, de leur capacité d'oubli et de ce qu'ils peuvent avoir des opinions, des goûts, des passions. 2 ans après la parution du livre, dans l'avant-dernier et dernier épisode d'une série de 12 entretiens, Claudine Chaunaise interrogeait Ionesco sur sa difficulté à prendre part au vacarme du monde. L'écrivain répondait par sa haine viscérale des idéologies, sa crainte d'un monde où le désir serait sans entrave, et concluait par un éloge du religieux. Première diffusion sur France Culture, les 31 mars et 1er avril 1975.
Eugène Ionesco, revenons à votre vie personnelle, à votre caractère, à votre façon de vivre. Alors, avec toutes ces histoires, enfin, qui compliquent encore votre vie, justement, les options politiques ou autres, on ne peut pas dire que vous êtes un homme tranquille, que vous êtes un homme heureux. Vous êtes un inquiet, vous êtes souvent un polémiste. Et qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui est votre consolation dans la vie?
La famille, ma femme, ma fille.
C'est déjà énorme. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous apportent du plaisir, de la joie? Vous ne détestez pas l'ambiance du café?
Oui. Je n'en dirai pas plus. Mais enfin, j'aime bien rester ici, à la campagne, avoir de l'espace, avoir de l'herbe.
Il y a des moments où vous éprouvez le besoin de vous apaiser. Mais vous, je sais pas,
je lis un roman, je regarde.
Vous n'avez aucune activité personnelle spéciale?
Non, je marche, je vais jusqu'au village.
Promenade, c'est ça.
À 1,5 km, je regarde la télévision.
Bon, vous ne collectionnez pas les papillons ou
je ne collectionne pas,
peut-être les rhinocéros, je sais qu'il y en a beaucoup chez vous.
Mais ce sont des amis qui me les ont envoyés. Je n'aime pas les collectionneurs.
Vous aimez peut-être, je ne sais pas, le cirque, les clowns?
Oui,
c'est
mais...
C'est pas obligé que vous les aimiez dans les livres et que vous les aimiez en réalité.
Oh. Parce il n'y a plus de bons clowns en ce moment.
Ou bien des choses annexes du théâtre, les marionnettes, peut-être. Vous devez aimer ça, non? Pas
avant,
tellement.
Avant, pas tellement. Rien de ce qui est spectacle ne m'intéresse.
Ah,
en
ça
ce
c'est
moment.
Intéressant.
C'est du boulot.
Oui.
C'est du travail.
C'est trop proche, justement, du théâtre.
C'est trop
pour
proche
vous...
de ce que je... Oui, c'est ça.
Très bien. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons de nouveau revenir, mais sous un autre biais, au sens profond de votre théâtre. Pour dire ceci, vous avez eu une formule que je trouve superbe. L'inexistence est sanglante.
Oui.
Si j'avais un roman à écrire, j'aimerais mettre ça en épigraphe. Je trouve que c'est très beau.
Oui.
L'inexistence est sanglante.
C'est parce que des philosophes et des sages et des métaphysiciens de l'extrême-orient considère que tout n'est que mirage, que ce qui existe n'est pas l'être, que tout cela n'est pas vrai et que finalement tout cela va se dissiper, tout est promis au néant, ce qui me semble vrai. Mais en même temps, nous souffrons terriblement dans cette vie. Nous nous engageons, nous combattons, nous vivons, nous mourons, etc. Et c'est terrible. La vie est terrible. On peut s'en rendre compte en regardant, je ne sais pas, ce qui se passe dans mon pré, dans l'herbe. Comme tout le monde, toutes les bêtes tuent toutes les autres bêtes. On peut voir ça quand on regarde au microscope une goutte de sang ou une goutte d'eau. C'est-à-dire, tout est carnage. Je ne peux pas ne pas penser que le monde est mal fait,
oui.
Mal construit. D'autre part, on me dit, ce n'est rien, ça va s'en aller. Alors, entre ce constat que la vie est terrible et qu'elle échappe peut-être à son créateur, d'une part, et que tout cela n'est rien, Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que l'inexistence, c'est sanglant. Oui. Toute la vie, tout est une espèce de cauchemar. Tout est un danger mortel.
Alors, quand le comique domine d'une certaine façon, bien qu'encore il y ait ce mélange presque parfait entre les deux, ben, nous avons la cantatrice, ou nous avons cette pièce tellement amusante, Jacques ou la soumission, je ne veux pas manger des pommes de terre au lard, n'est-ce pas? Et quand c'est le tragique tout de même qui l'emporte, alors nous avons la soif et la faim, ou bien le roi meurt.
Oui.
Et alors, vraiment, le roi meurt, c'est une pièce qui a un côté solennel et majestueux. Et je ne sais pas si j'ai tort en voyant comme dernier symbole de le roi se meurt. L'idée que le roi, c'est l'homme lui-même, que l'homme est un roi dérisoire, couronné d'épines, mais tout de même une espèce de roi, par sa souffrance même.
Oui, c'est absolument exact. Ce roi, c'est l'homme, et c'est n'importe quel homme. Il se passe cette chose extraordinaire que chacun est un centre, comme disait Solzhenitsyn dans un livre récent. Tout le monde est un centre, c'est-à-dire que chacun de nous souffre comme s'il était seul dans le monde. Il y a des milliards de gens dans le monde, et pourtant, je n'ai pas... Ma part de souffrance n'est pas la milliardième du total, mais elle est comme accrue par l'existence de ces milliards de gens. C'est-à-dire que chacun est tout le monde à la fois. Et il souffre et il meurt comme si tout l'univers mourait en lui.
Oui. Quelle est votre pièce préférée ?
Oh, je ne sais pas. Peut-être la cantatrice, en ce moment.
Tiens, oui, ça vous dirait le contraire dans 8 jours, et oui. Vous l'avez sûrement dit le contraire il y a un mois.
Elle est plus près, cette pièce, du sentiment oui. que je vous ai décrit.
Oui. Est-ce que vous ne seriez pas en train de retourner justement à quelque chose qui, tout en étant bien entendu différent, il y a une évolution irréversible, mais qui vous rapprocherait de cette fameuse parodie du langage, enfin, un retour au langage parodié?
Un écrivain, quand il commence une œuvre, doit oublier tout ce qui a été dit, tout ce qui est culture. Il doit oublier cela et partir à la recherche de pistes nouvelles en exploration dans la forêt vierge. De même, un écrivain doit aussi se séparer de sa pauvre culture personnelle, des choses qu'il a écrites. Alors, à partir, après la cantatrice chauve, j'ai fait du théâtre. Et chaque pièce découlait plus ou moins de la précédente. Et finalement, il y a eu une sorte d'édifice, une sorte de monument. Et je suis juché sur les toits de mon édifice et je vois que le sol est bien loin, que je l'ai quitté. Alors il faut que j'y retourne et que j'y trouve ma propre terre.
Oui, il y a donc une espèce de cycle, mais un cycle qui est probablement en spirale, qui n'est pas un retour.
Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que, à partir d'un certain moment, j'ai erré.
Oui, mais enfin, si errer, ça a donné la soif et la faim et le roi se meurt. C'est ça que vous appelez l'errance ?
Tout de même, oui.
Ah oui ?
C'est-à-dire, j'ai été pris au piège du spectaculaire.
Oui.
J'ai été pris au piège de l'effet théâtral.
Et du lyrisme.
J'ai été pris au piège du lyrisme. En m'attendrissant sur le monde, je m'attendrissais aussi sur moi-même. Et c'est ce qui ne doit pas arriver à un écrivain. Il y avait de l'ironie et il y avait du sarcasme dans les premières pièces. Et c'est cela qu'il faut retrouver. et qui est difficile à retrouver.
Alors, il y a pourtant une chose qui ne vous a pas quitté, ni dans les comédies, ça va de soi, mais même pas non plus dans les tragédies, c'est l'humour. Il y a un fil constant d'humour chez vous.
Il n'y a que par l'humour, par l'agression, par le sarcasme, qu'on peut échapper à soi-même, qu'on peut se dépasser, vaincre la souffrance.
Et puis vous avez écrit aussi une fois, ce qui m'a touché, que après tout l'humour ça avait une grande qualité, c'est que c'était inoffensif. Parce que vous dites agressif, mais c'est un peu autre chose, alors c'est le sarcasme. Mais l'humour, même l'humour noir, c'est inoffensif, je veux dire, c'est pas des mitrailleuses.
Et qui vous empêche justement d'utiliser la mitrailleuse, de tirer.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Dans nos entretiens, justement, oui. Je me suis pris un peu trop au sérieux.
Maintenant, nous allons passer à un dernier aspect que nous avons bien entendu déjà envisagé. Ce serait ce que j'appellerais Ionesco par rapport aux autres hommes. Ionesco, pas seulement métaphysicien. On a l'impression, ce n'est pas votre faute, vous arrivez difficilement à sortir de vous. Tellement votre angoisse est constante, tellement vos problèmes sont accablants, tellement ce que vous appelez votre fatigue de vivre, et vous n'arrivez pas à participer un peu davantage à la société. Agir. Ne retombons pas dans les méandres de la politique au sens parti, au sens engagement. Mais on ne voit pas pourquoi vous êtes tellement désespéré.
Je ne suis pas désespéré, je suis pessimiste.
L'espoir tourne toujours mal. Comment ?
Il reste toujours un peu d'espoir.
Oui, il y a tout de même un peu d'espoir.
Si c'était complètement négatif...
Oui, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est un peu
si
négatif.
Si c'était simplement négatif, je n'écrirais pas non plus. Et si l'action n'était pas utile, je n'écrirais également pas, étant donné que écrire, c'est encore une action. Maintenant... Je ne sors pas de moi-même, vous savez, j'ai plutôt l'impression que je ne me retrouve pas à tel point je regarde ce qui se passe au dehors.
Ah, c'est autre chose, l'observation.
Alors, ce qui se passe au dehors entre en moi. Je n'arrive jamais à être... La plupart des gens apprennent qu'il se passe des choses abominables dans le monde, ici ou là.
Oui.
Là. Ils continuent de jouer au tennis, de prendre leur thé, etc. Pour moi, est-ce de la folie de ma part ? Pour moi, savoir que le mal règne dans le monde m'empêche d'agir et me renvoie à moi-même. Mais d'abord et surtout, ce sont ce qui se passe à côté, ce qui se passe hors de moi, surtout cela qui me tracasse le plus. C'est-à-dire, d'une certaine façon, je suis davantage avec les autres que ceux qui croient être avec les autres.
Oui, mais du seul fait que vous ne croyez pas que, selon une parole célèbre, le monde peut changer, du moment que vous croyez que tout est bloqué, et vous ne pouvez pas agir puisque vous pensez que rien ne peut changer.
Je ne crois pas que tout est bloqué.
Ah, vous espérez qu'un changement,
finalement,
un progrès, une sorte de progrès un jour ?
Qu'est-ce que c'est que le progrès ?
Ah.
Pas le progrès, je n'aime pas ce mot. Enfin,
nous
depuis deux
pas
siècles, le progrès technique depuis deux siècles, ce que nous a apporté le progrès, c'est la catastrophe.
Que j'appelle une espèce de vague conscience morale qui naîtrait à l'humanité au sein de la violence et de l'injustice.
Oui.
C'est ça dont je parle. Vous pensez que ça peut tout de même arriver.
Oui,
eh bien, toute votre, j'allais dire votre action, dans la mesure où écrire, c'est agir tout de même, donne l'impression du contraire. Si votre pessimisme est total, c'est votre droit. Mais si, comme je le crois, il n'est pas si total que ça, pourquoi en donnez-vous l'impression ? Pourquoi est-ce qu'il est si rare ?
C'est à vous de répondre à cette question.
Mais pourquoi est-ce qu'il est si rare que vous donniez une parole d'espoir, fût-il lointain ?
Mais parce que c'est difficile de...
Vous avez
c'est
toujours l'air de critiquer ce qui est vrai.
Mais je fais ça, c'est une dénonciation
que je fais.
Oui, il
faut aussi. Mais est-ce qu'en même temps que la dénonciation, on ne peut pas essayer de donner aux gens une espèce de...
Donner quoi ?
Ah ben...
On ne peut pas donner de faux messages. On ne peut pas donner des messages tout faits, comme le font les écrivains, les écrivains idéologues. On peut dire ce qu'on voit, on peut dire ce qui se passe. On peut dire que depuis deux siècles que l'on parle du progrès, nous allons à pas accélérer oui. vers la catastrophe. Je ne vous parlerai pas des choses qui maintenant oui. sont connues de tout le monde. Mais... la surpopulation, oui, la production, oui. la oui. pollution, etc. Oui. À tel point qu'à cause du progrès, nous sommes tout près de la fin.
Non, mais
et
ça...
que nous vivons bon. Dans la catastrophe.
Non.
Et pas seulement à cause du progrès technique, mais aussi à cause des idéologies.
C'était l'avant-dernier volet d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco, menée par Claudine Chonez, et diffusée pour la première fois le 31 mars 1975. Tout de suite, le dernier moment de cette rencontre.
Je disais que je ne suis pas intéressé par ce que pensent les gens, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que pour moi, les idéologies sont des alibis derrière lesquels se cachent les pulsions les plus féroces. C'est-à-dire, on peut constater que lorsque une société qui s'était libéralisée et qui s'était améliorée du fait de sa déchéance, à ce moment-là, il y a un mouvement révolutionnaire qui réinstalle la tyrannie. Ce qui fait qu'en réalité, ces idéologies ne sont que les alibis de nos instincts les plus féroces, les plus stupides, les plus absurdes. Voilà pourquoi je suis contre les idéologies. Et voilà pourquoi je serai pour la religion.
Je vous suis parfaitement bien, mais entre cette idéologie militante et engagée contre laquelle vous êtes et ce qui a passé souvent à tort ou à raison chez vous pour simplement de... comme dirait l'autre, de la rogne et de la grogne purement négative, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un milieu, je citerai très rapidement comme un exemple, parce que je sais que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, et moi aussi, qui est Jean Rostand, votre petit camarade de l'Académie, eh bien, qui me paraît être le type de l'homme qui reste libre vis-à-vis des idéologies, mais qui pourtant s'engage très généreusement dans toute action qui lui paraît devoir promouvoir un petit peu plus de justice sociale.
D'abord,
de...
je voulais vous dire, la justice sociale, c'est un lieu commun. Rien ne peut être fait sans amour. Qu'il n'y en ait pas, c'est une catastrophe. La justice, ça veut dire sanction et châtiment. Et c'est à cela que pensent les gens qui veulent faire justice. Mais je crois que ce n'est pas notre condition sociale qui est surtout déplorable. C'est notre situation existentielle.
Existentielle. Il semble, d'après toute votre humeur et vos goûts, que vous devriez être, non pas contre le progrès technique, mais en lui-même, mais contre ce qu'on est convenu d'appeler la société de consommation, c'est-à-dire la pollution,
c'est
la
évident.
Méthanisation.
C'est évident, bon. J'ai même écrit bon. Un article
alors,
à ce sujet.
Pourquoi alors êtes-vous si féroce contre Marcuse, qui prêche précisément la libération de la société de consommation et l'expansion de la liberté individuelle, du désir, du jeu dans le travail, une quantité de choses qui devrait vous être infiniment sympathique.
On parle trop des désirs en ce moment. Le désir, le plaisir, l'érotisme, etc. Mais le désir est une chose trop désirée, sans limite, est une chose extrêmement dangereuse, parce que les désirs vont contre désir et ça explose. Plutôt que de laisser cours libre au désir, je suis pour la désarticulation et la démystification du désir. On parle beaucoup de la société du bonheur. Eh bien, je crois que plus on le cherche, plus il fout le camp. Vous allez dire, je prévois une objection de votre part. Vous allez me dire, mais si vous voulez que tous les désirs soient refoulés et qu'il y ait une société sans plaisir, mais tout simplement utilitaire, si vous dites là, c'est que vous êtes stalinien. Un peu stalinien. Alors, après avoir dit tout le mal que je pensais du stalinisme, je dois admettre que par certains côtés, l'énorme discipline qu'il a imposée aux citoyens soviétiques, oui. cet énorme refoulement a été peut-être indispensable. Certainement, ça a empêché le monde d'aller vers la catastrophe.
Oui, mais ça doit pas être
le final. Si on donne le désir, qu'ils réalisent leur désir, qu'ils réalisent le oui. plaisir, 100% à tout le monde, vous imaginez ce que feraient
oui,
les partouzes.
C'est ça. Il y a peut-être un milieu.
En 1968, oui. il y avait des gens qui pensaient bien, mais il y avait aussi des gens pour qui cette rébellion était tout simplement une énorme partouze. Oui. C'est ce qu'ils voulaient. Et c'est ce que toute société interdit. Il est défendu d'interdire est une très belle formule, mais il n'y a pas de société sans interdiction.
J'ai remarqué justement, de toute façon, l'absence, je crois, à peu près totale d'érotisme dans votre théâtre. Mais vraiment, je ne sais pas où on pourrait en trouver, si peu que ce soit. Ça m'a frappé.
Eh bien, dans la leçon.
C'est vrai. C'est très juste. Oui,
et
en
puis
effet.
Dans...
Oui, dans la leçon.
Et puis dans Jacques Lhomme Mission. La sarabande du cheval. Si la Maria Troinée
enfin,
qui,
oui.
qui enveloppe. Oui. Qui cache dans ses voiles.
Oui, mais enfin, c'est pas très poussé comme érotisme. Même le professeur cruel de la leçon, enfin, on voit beaucoup d'autres choses, peut-être plus importantes que l'érotisme.
C'est l'agression, oui. c'est la possession, et c'est oui. aussi, quand il la tue avec un couteau, oui. c'est nettement un acte érotique, c'est vraiment
tout
le viol.
Tout acte sadique c'est est ça. Un acte érotique. Mais enfin, il n'y a pas du tout la dimension du plaisir.
Oui, parce que, oh, je ne sais pas, ça n'entre oui. pas dans mes
même,
préoccupations intellectuelles. Il y a eu d'autres...
choses qui vous intéressent davantage.
Exactement.
Oui. Et même, je dirais que la femme n'est pas très importante dans votre théâtre. Sauf peut-être Macbeth, qui en l'honneur de Lady Macbeth, qui tout de même conduit la barque, même dans Shakespeare. Alors là, Lady Macbeth est un personnage... individuel et très, très, très poussé et très vivant. Mais autrement, la femme, il me semble, dans tout votre théâtre, est plutôt un type ridicule comme Mrs. Smith ou comme etc. Mais une marionnette.
Elle est pleine d'amour.
Ou donc, pas tellement. Dans La soif et la faim.
Dans La soif et la faim, oui. comment s'en débarrasser?
Dans le théâtre tragique. Oh non, elle est odieuse, la femme, de comment s'en débarrasser.
Elle est là, elle a fait son boulot, elle travaille, oui. elle veut retenir ce bonhomme qui fout le camp et qui est incapable.
Oui. En fait,
et puis il y a le piéton de l'air, là, où oui. la femme est...
Mais tout de même, vos héros sont essentiellement des hommes. On dirait que c'est à l'homme tout de même que vous donnez de préférence cette soif de l'absolu et ce désir de liberté qui vous sont les deux choses les plus chères.
Dans Le Roi se meurt, c'est quand même la femme qui
oui.
dirige.
Oui, laquelle d'ailleurs
l'homme. Les deux. Il y en a une qui est le plaisir.
Oui, et Marguerite.
Donc l'oubli, c'est oui. à cela que mène le désir. Oui. D'une part l'oubli, et d'autre part elle est la conscience supérieure.
Alors nous allons essayer d'arriver à une sorte de... de conclusion, en montant encore d'un degré, si on peut dire. Je prends par exemple l'exemple du solitaire, qui est vraiment un pauvre type. Enfin, vous l'avez dépeint comme un pauvre type, n'est-ce pas? Précisément parce qu'il ne parvient pas ni à aimer, ni à participer. Enfin, c'est un solitaire, et malgré l'amour de la serveuse, il demeure un solitaire. Et pourtant, même dans ce pauvre type, il semble qu'il y ait une sorte de rédemption, à certains moments, de joie inexplicable, en particulier devant la lumière. Et oui. cela existait déjà, le même mouvement dans le Béranger du Tueur s'engage, n'est-ce pas? Et je crois que ça, c'est une chose très importante chez vous, et c'est un très vif souvenir d'enfance.
Oui. C'est un très vif souvenir d'enfance, un souvenir de jardin ensoleillé, et puis un souvenir d'adolescence. Je me promenais dans une petite ville de province et j'ai senti tout d'un coup comme une sorte de grâce, de bonheur extraordinaire, et ça se passait au mois de juin, c'est-à-dire au moment où tout n'est que lumière.
Il y a une espèce de balance chez vous entre la boue et la lumière, n'est-ce pas? Moi, j'aurais tendance quelquefois à appeler tout votre théâtre, surtout bien entendu les dernières pièces, qu'on peut appeler si on veut le théâtre tragique, comme véritablement une espèce de cri vers Dieu. Moi, je vous crois à un esprit essentiellement religieux et désespéré de ne pas avoir
la
foi.
C'est en cela, je crois, qu'il y a une certaine ressemblance avec Beckett.
Oui.
Mais
sûrement.
Beckett ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas le dire. Mais en attendant Godot, c'est bien l'attente de Dieu. Dans fin de partie, il y a cette réplique extraordinaire après la prière, après qu'il dit notre Père qui est aux cieux, etc., après le Pater, oui. L'un des personnages dit le salaud.
Il n'existe pas, je me souviens de la formule, oui.
Une œuvre comme l'innommable est assez significative, parce que c'est Dieu qui n'a pas de nom, qui est innommable. Et puis, il a une dernière œuvre qu'il a écrite, où il montre des gens comme des larves dans un cylindre, qui s'appelle le dépeupleur, et qui essayent de monter vers la lumière. Donc, la lumière est vraiment mystique, et elle est surtout très orthodoxe. Il y a un livre sur l'église orthodoxe d'un russe, Arseniev, où un malheureux arrive chez son confesseur, le confesseur lui met la main sur l'épaule et tout d'un coup il y a une grande lumière qui l'entoure. D'abord on trouve ce thème de la lumière, on le trouve chez tous les Ézéchiastes, c'est-à-dire les mystiques byzantins. La lumière est révélation.
Oui. Donc je crois qu'on pourrait... On pourrait appeler chez vous la soif et la faim, la soif et la faim de Dieu. Très, très nettement. Est-ce que vous admettez ça?
Ouh. Oui. Alors, je ne sais pas, même pas. Je crois que c'est trop prétentieux.
C'est une prétentieux aspiration. De l'atteindre, mais c'est bien une aspiration chez vous. Que vont devenir, dans cette hypothèse, Béranger ou le solitaire?
Je n'en sais strictement rien. Mais je pense que je vais continuer toujours d'écrire. L'écriture étant pour moi la quête par excellence. Et je ne vois pas très bien comment va se construire une sorte de pièce partie d'un rêve. Qu'est-ce qu'elle va être? Ça, je ne le sais pas.
Une pièce que vous préparez?
Une pièce que je prépare. C'est-à-dire que, en un certain sens, je suis en attente. Alors, je ne suis donc pas en vacances, parce que je suis tracassé même. Quand je ne fais rien, ça bouillonne, je vais finir par être brûlé vif. Vous savez, certaines de mes pièces sont parties d'un scénario, c'est-à-dire je savais très bien où j'allais. D'autres pièces ont été écrites, et surtout les pièces du début, à partir de rêves, à partir d'une réplique, à partir d'une image scénique. Les chaises, je voyais dans mon esprit, j'imaginais une sorte de ballet des chaises. Et j'ai écrit le texte tout autour. Mais quand cette idée, cette image a surgi, eh bien, à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais mettre autour. Je pars également d'un rêve assez obscur, assez difficile à raconter, et qui deviendra, j'espère, une pièce, et que cela s'éclairera à mesure où je la ferai, où je l'écrirai. Et il sera tout à fait clair pour moi lorsque j'aurai mis le mot rideau à la fin. Je pars en aventure, si vous voulez.
C'était l'avant-dernier et dernier volet d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco menée par Claudine Chonez et diffusée pour la première fois sur France Culture les 31 mars et 1er avril 1975. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.